Vivez conscient. La vie est un art. Le bonheur, individuel et collectif, est lié au respect des grands principes enseignés depuis toujours par les sages du monde entier. Dans cette émission, nous passons en revue les grands domaines de la vie afin de montrer l'actualité des enseignements de la sagesse ancienne. Et cette fois-ci, avec David. Bonsoir David.
Bonsoir Olivier, bonsoir
nous,
à tous.
Nous allons vous parler de la mort, mais de la renaissance aussi.
Oui, donc quand on met renaissance à côté de mort, déjà on respire un petit peu plus. Car en général, Olivier, tu vas être d'accord avec ça, et les auditeurs sûrement, c'est que la mort évoque toujours quelque chose de négatif.
Elle fait peur. Il faut reconnaître qu'elle fait peur dans nos sociétés, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les pays où justement cette notion de renaissance, de réincarnation est vraiment bien ancrée dans le collectif. Mais en tout cas, ici en Occident, la mort fait peur.
Ah oui, c'est fortement, fortement différent.
Alors, il y a quelque chose qui vient de la religion, faut reconnaître, dans cette peur-là. La religion a souvent entretenu la peur de la mort, a entretenu la peur de ce qui se passe après la mort, pour la conscience ou pour l'âme, puisqu'on sait que dans le monde chrétien, l'enfer a existé pendant longtemps. Hein. Je crois qu'il a été... il vient du XIIe siècle seulement, hein, l'enfer. Et c'est vers la fin du XXe siècle qu'officiellement l'Église chrétienne a dit que l'enfer n'existait pas en tant que lieu où on irait après la vie et où on brûlerait dans les flammes. Horrible comme ça, mais pendant des générations, sur plus d'un millénaire, ça a forcément marqué le collectif et forcément évoqué la peur de la mort aussi.
C'est plus vieux que ça, parce qu'en fait, dans toutes les mythologies, il y a après la mort toujours ce choix ou cette bifurcation, soit vers des enfers, ou en tout cas un lieu qui correspondrait à ceux qui ont péché, hein, ceux qui ont mal agi, et au contraire une sorte de paradis céleste pour ceux qui n'ont pas quitté le droit chemin, je dirais. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans notre inconscient collectif, en tout cas en Occident depuis vraiment longtemps, et même en Orient, vous avez dans le brahmanisme, même repris dans le bouddhisme exotérique, des notions comme ça de niveau d'enfer, etc., ou de sphère autre. Enfin, c'est vraiment très élaboré. Donc je pense que c'est partagé par l'ensemble de la population. C'est un petit peu différent au nord, par exemple, c'est un enfer gelé, alors qu'il est chaud dans nos traditions à nous, plus chrétiennes. Voilà, donc il y a des petites variantes, mais il y a toujours cette idée qu'on peut aller vers deux lieux différents, voire trois, quand on met le fameux purgatoire.
L'état intermédiaire.
Donc, alors, on va voir qu'en langage symbolique, en fait, c'est simplement des symboles pour expliquer les états post-mortem dont on va parler, Olivier, aujourd'hui.
Alors, autre peur de la mort en raison du sentiment d'anéantissement de la personne. La personne peut avoir l'impression qu'après sa mort, rien ne restera d'elle, qu'au bout d'une génération ou deux, on sera oublié. Je ne sais pas pour toi, David, mais moi, je ne connais même pas le prénom de mes arrière-grands-pères, par exemple. Hein. C'est vraiment... ça, c'est très vite oublié, une personne. Et si la personne est très identifiée à elle-même en tant qu'individu marchant sur terre à un moment donné, si elle ne se conçoit pas en tant qu'être profond, être spirituel, mais simplement comme étant cet individu qui marche sur terre, bah oui, effectivement, elle est obligée, avec un minimum d'intelligence, de voir qu'elle sera oubliée, qu'elle sera anéantie.
Il reste plus que la culture, c'est vrai, parce que la science, par sa dimension athéiste et matérialiste, a en fait imposé en quelque sorte l'idée que la conscience était liée à l'activité neuronale, donc cette activité cessant, l'être disparaissait, et qu'après on était dans le domaine des croyances, voire même de l'affabulation, ou au mieux des philosophies de la religion. Donc on a en fait soit une présentation très matérialiste d'une fin complète, d'un anéantissement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui survit à vous en dehors de votre héritage? c'est peut-être la marque culturelle que certaines personnes ont léguée et on s'accorde pour dire qu'ils survivent à travers leurs œuvres, par exemple. Ou alors on a toute une série de croyances, et pour peut-être quelques auditeurs, ils auront l'impression que tout ce qu'on va dire aujourd'hui rentre dans cette deuxième partie, c'est-à-dire des croyances sur l'état post-mortem.
Alors, autre manifestation de la peur de la mort, c'est plus la peur de l'approche de la mort, c'est la peur de mourir, je dirais. Non pas la peur d'être mort, mais la peur de mourir avec la peur de la douleur. Alors qu'en fait, ceux qui décrivent le passage de la mort décrivent autre chose. On va y venir tout à l'heure, hein, dans cette émission. Mais il y a cette peur qui est très répandue, hein, comme si ça allait faire mal, quoi.
Tout à fait, il y a la peur de la souffrance. Et puis il y a une souffrance psychique peut-être plus grande, c'est le vide. Donc ça rejoint la notion d'anéantissement, mais l'anéantissement, c'est que les choses s'arrêtent. Mais il y a aussi la peur d'un vide, c'est-à-dire d'être plongé dans quelque chose, en admettant que quelque chose survive, dans quelque chose qui dure éternellement. Une forme, ça pourrait être une forme de supplice, hein, d'être comme ça dans une sorte de chaos, de vide, si quelque chose survit. Ou alors il n'y a rien du tout et c'est pas plus envisageable.
Et puis peut-être dernière peur, dernier type de peur de la mort, c'est la peur de perdre ses relations avec ses proches. On voit des personnes qui sont très très proches, par exemple des couples qui sont très très proches lorsqu'une personne part, l'autre part peu de temps après. Des personnes qui n'envisagent pas de vivre séparées, des personnes qui sont très en fusion, que ce soit avec les proches ou avec quelque chose de matériel. On voit aussi des personnes qui s'accrochent énormément, par exemple, à leur lieu de vie. Des personnes qui ont vécu pendant 30 ans dans le même appartement, la même chambre, et qui ont un très fort attachement, et qui se retiennent psychologiquement presque de mourir, hein, qui s'empêchent de mourir par attachement, comme ça, bah, à ses proches, à ses enfants, ou à des lieux.
Ça peut être un sens de responsabilité, ne pas vouloir mourir pour ne pas laisser aussi ce que l'on aime. Parce que on s'accorde souvent pour dire que ce qui est dur dans la mort, c'est pour ceux qui restent. Hein. C'est pour ceux qui vivent le vide proprement dit, parce que soit on est anéanti, il ne se passe rien, soit c'est merveilleux, et puis on entre dans une autre vie plus libre, donc le deuil, il se vit, semble-t-il, pour ceux qui restent.
Oui. Alors, pourtant, face à toutes ces peurs, il y a des éléments de preuve, quand même, qui montrent qu'il y a quelque chose après, que... Il y a tous...
À quoi tu penses alors comme genre de preuve?
Il y a les personnes qui arrivent à être en contact avec les défunts. Et il y a une deuxième série, c'est ce qu'on appelle les expériences au seuil de la mort. Donc les expériences de contact avec les défunts, que ce soit par des médiums, que ce soit par... Il y a des outils maintenant techniques, hein, qui permettent de le faire. On le fait avec des magnétophones. Il y a plusieurs manières comme ça pour essayer de rester en contact avec une personne qui vient de partir. Et dans tous les cas, en tout cas moi, tout ce que je connais, c'est que la description de ce que ces personnes qui viennent de partir font de l'état dans lequel ils sont, de ce qu'ils vivent, c'est une description qui nous ferait presque envie d'aller les rejoindre rapidement.
Oui, certains disent que l'enfer, il est sur Terre, hein.
Ouais.
On entend ça souvent. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, donc c'est qu'il y a déjà donc des outils. Et on peut aussi penser au fait que les morts prouveraient qu'ils sont bien les personnes dont ils parlent en apportant des preuves. Hein, des preuves que eux seuls, ou que seulement eux et la personne concernée pouvaient savoir.
Oui, il y a des choses... qui relèvent de l'intime, qui peuvent être dites et qui, voilà, que personne d'autre n'aurait pu inventer. Hein. Donc il y a toute une série comme ça d'éléments de preuve, même si on ne peut pas appeler ça une preuve au sens strict du terme. Ce sont quand même des éléments de preuve que l'entité avec laquelle il y a un contact est effectivement ce défunt qui vient de partir.
Alors ce que l'on dit, c'est que la fonction du spiritisme, c'était ça, c'était d'essayer de montrer d'une manière ou d'une autre qu'il y avait une survivance.
Et donc le spiritisme, c'est une discipline qui est apparue au 19e siècle, je crois, hein, David.
Oui, on pourrait presque dire réapparue, parce qu'elle est peut-être vieille comme le monde. Hein, mais oui, on pense à Allan Kardec, cette discipline où on essayait de développer le contact avec les morts, avec les défunts. Il y a même eu des expériences pour essayer de matérialiser leur apparence. Enfin, oui, tout ça, c'est l'époque du 19e.
Et maintenant, on travaille avec des magnétophones, on peut entendre leur voix. Et avec des vidéos aussi, hein. Il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là et qui vraiment tentent à montrer qu'il y a quelque chose après la mort, c'est indubitable, et c'est quelque chose de drôlement bien.
Et il y a aussi donc les expériences de ceux qui ont été proches de la mort, qui en reviennent et qui décrivent des étapes similaires, le fameux tunnel, la lumière au bout. De ce que j'ai pu comprendre, ils ne vont pas jusqu'au bout, sinon ce serait vraiment la mort, mais ils peuvent en revenir.
Quelquefois, on leur laisse le choix d'ailleurs. Est-ce que
Voilà.
tu veux bien revenir parce que tu aurais encore du travail à faire sur Terre dans tel et tel domaine? Tu n'as pas terminé ta mission de cette incarnation-là.
Et les sorties de corps, pareil, même expérience, on sort de son corps, on peut voir son corps, on peut voir les autres autour, on a une sorte de, comment on pourrait dire ça, de sensation, de suprasensation, de supersensation, hein, on
On
peut,
sait ce que les gens pensent autour de soi,
voilà,
hein, oui.
on a vraiment des sens beaucoup plus larges, beaucoup plus affinés. Donc voilà, ça pourrait correspondre à tout ce dont on va parler maintenant, hein, des différentes étapes de la mort. Donc il y a des preuves, en tout cas il y a une accumulation de faits autour de la survivance, on va dire, de l'âme.
Est-ce que également on a des éléments qui tentent à montrer la réalité de la réincarnation, avec des enfants qui vont spontanément se souvenir donc de choses, de la façon dont ils sont décédés, par exemple dans leur vie d'avant, des choses qui ne s'inventent pas quelquefois, hein, des choses très particulières et qui peuvent être vérifiées. Et
Voilà, on
dans
peut
les pays
vérifier
où
les liens, oui.
dans les pays où la réincarnation fait partie du collectif comme étant normal, hein, et reconnue comme normale par le collectif, eh bien les enfants peuvent s'exprimer, les adultes ne vont pas les réprimer, vont écouter ce que disent les enfants et vont être capables effectivement de vérifier des choses tangibles.
L'exemple le plus connu, c'est celui du 14e Dalai Lama, qui a vécu les tests que vivent tous les futurs lamas, c'est-à-dire on lui montre plusieurs objets qui sont censés appartenir au précédent Dalai Lama. Alors certains sont faux, d'autres vrais, et l'enfant doit les reconnaître. Voilà, donc on le teste de plusieurs manières comme ça, parce qu'il est censé être la même âme revenant dans un nouveau corps pour continuer sa mission. Alors ce qui est plus en fait subtil dans la réincarnation, les enseignements ésotériques expliquent que on peut très bien se connecter sur une mémoire, même en vérifier les faits, sans qu'elle nous appartienne proprement dite. Donc, ce qui est difficile, c'est de se l'approprier, c'est d'être certain, même si on a l'impression, si on régresse, par exemple, on va dans une vie passée, hein, quand il y a des méthodes comme ça de régression, d'altération de la conscience pour retrouver, dit-on, ses vies passées. On ne sait jamais si c'est sa vie. Si c'est forcément en lien avec son histoire, mais ça peut être simplement un lien émotionnel, mais le matériel que l'on trouve peut être un mélange de tout ce qui se trouve dans cet inconscient collectif, ou vraiment la vie précise de quelqu'un, mais qui n'est pas nous-mêmes. Ou parfois, ça peut être vraiment notre vie, c'est vraiment un sac de nœuds, hein.
Oui, parce que si tous les gens qui prétendent avoir été Cléopâtre ou Jules César avaient raison, eh ben, il y en aurait eu un certain nombre de Cléopâtre et de Jules
Ce
César.
serait une grande famille.
David, les enseignements de sagesse ancienne parlent évidemment beaucoup de la mort et de son processus et associent ça à quelque chose de cyclique. Tout dans la vie est cyclique.
Oui, dans la doctrine secrète, par exemple, de Madame Blavatsky, qui synthétise, on peut dire, toutes les traditions du monde entier, d'un point de vue ésotérique, on a un des grands énoncés fondamentaux, c'est que tout est cyclique, il y a une loi de périodicité. Et ça, on a pu le vérifier en astrophysique. On sait que tout naît, croît, meurt, se dissout, puis ce matériel est réutilisé.
Que ce soit une étoile, que ce soit un être vivant, une planète.
Voilà, on le voit, et c'est intéressant de savoir que Quand Paracelse disait au Moyen-Âge qu'on était des particules d'étoiles, on lui riait au nez, alors que maintenant on sait très bien que quand il y a une supernova, une explosion d'étoiles, ça vient enrichir tout le matériel de l'espace et qu'on réutilise ce matériel et que ça rentre dans la composition du vivant.
Donc oui, c'est factuellement démontré au niveau des mathématiques. Voilà. Hein, il y a Jean Charron, un mathématicien français, qui a écrit un livre qui s'appelle, par exemple, « Nous avons tous 15 milliards d'années », quelque chose comme ça, qui démontre que nos corps, même physiques, sont constitués de poussière d'étoiles.
Alors, en Orient, on dit que la matière est éternelle. Et là, donc, on peut le comprendre. Rien ne se perd, tout transforme, hein, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, il y a cette évolution cyclique de la matière. Et donc, les corps, forcément, se font, se redéfont. Alors, l'idée, c'est de savoir s'il y a des mêmes entités qui survivent à ces transformations et qui reviennent cycliquement dedans. Ça serait ce fameux principe de renaissance. Mais en tout cas, au niveau matériel, on connaît très bien le cycle de l'eau. Hein, au niveau de la Terre, hein, la pluie qui tombe, et puis l'érosion, puis après c'est utilisé par les végétaux, la transpiration, ça monte, ça fait des nuages, et de nouveau la pluie, voilà, enfin les rivières, etc. Donc on a constamment ce cycle, on a le cycle des saisons qui revient constamment, puis les cycles planétaires, on voit bien.
Et donc la grande question pour nous, c'est de savoir s'il y a une conscience qui reste au-delà. Donc il semble que oui, hein, de ce qu'on a dit en tout cas au départ de cette émission. Et si cette conscience revient cycliquement, effectivement, dans de nouvelles incarnations.
Voilà, en tout cas, ce n'est pas une idée qui est étrangère à l'Occident. Hein. Déjà chez les Grecs, on a cette idée de la réincarnation. Elle est présente d'une façon peu voilée chez Platon, chez Pythagore, dans les mythes orphiques. Donc elle semble aussi présente chez les Égyptiens, si on comprend bien le cycle du soleil, etc. Et puis elle était présente chez les chrétiens, on l'a abandonnée au VIe siècle définitivement. Hein. Il y a eu anathème sur les doctrines d'Origène et toutes les doctrines qui évoquaient la réincarnation, mais chez les premiers chrétiens, les gnostiques chrétiens, où il y avait beaucoup d'ailleurs d'influence de philosophie orientale, on avait cette idée de la réincarnation, de l'âme qui a besoin de faire plusieurs séjours sur Terre, et la Terre souvent était vue comme un enfer d'ailleurs aussi, hein, comme une prison de l'âme. Hein.
Jésus lui-même parlait de la réincarnation quelque part quand il répondait à ses disciples et qu'effectivement Jean-Baptiste avait été Élie.
Tout à fait, hein. Il y a aussi la parabole avec l'aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou son père, enfin, oui, il y a plusieurs traces, même dans notre culture chrétienne, hein, qui montrent ça. Donc, admettons, prenons comme hypothèse qu'une même conscience peut revenir x fois dans un corps et que, au fur et à mesure, bien sûr, les corps sont de plus en plus raffinés. Hein? Alors, qu'est-ce qui expliquerait qu'une même conscience puisse revenir plusieurs fois dans les corps? Olivier, on a déjà évoqué parfois dans quelques émissions cette notion d'atome permanent. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça fonctionne?
Alors en fait, ce serait un mécanisme qui permettrait à cette conscience de ne pas perdre conscience, justement, de toujours continuer à évoluer en termes de conscience, d'incarnation en incarnation. Donc un mécanisme de mémoire, en quelque sorte. Donc concrètement...
Une boîte noire, en quelque sorte.
Oui, une boîte noire, si tu veux, oui. Oui. Donc concrètement, un atome du corps physique, un atome du corps émotionnel et un atome du corps mental, de nos trois corps de manifestation hein, principaux, qui seraient permanents, gardés dans un corps qu'on appelle le corps causal dans certaines traditions, hein, et qui serait
le corps de l'âme.
Le corps de l'âme, voilà, le corps de manifestation de l'âme, l'âme étant cette entité, cet être profond qui s'incarne. Hein.
Donc c'est sur le plan de l'âme, hein, on n'est pas sur le plan...
Donc l'âme elle-même, à partir de ces... trois atomes, qu'on appelle les atomes permanents, eh bien, fabriquerait les corps par synchronie vibratoire, hein, les corps de sa vie suivante. Et donc, la personne, dans sa vie suivante, reprendrait automatiquement le niveau de conscience qu'elle avait à la fin de la vie d'avant. D'où l'évolution de la conscience de vie en vie et l'augmentation générale de la conscience, par exemple de l'humanité, qui est quelque chose qui est quand même assez, je pense, assez patent, hein, si on regarde sur, bien sûr, des milliers d'années, hein. Et aussi, d'où peut-être aussi la différence de niveau de conscience entre les êtres humains en incarnation à un moment donné, parce que certains ont peut-être tout simplement eu davantage de vie que d'autres ou ont commencé leur cycle d'incarnation plus tôt.
Donc c'est la garantie de l'acquis, de la mémoire, de l'évolution, parce qu'il faut forcément des acquis, et puis et l'idée aussi donc que ces atomes se transforment, donc les corps vont se transformer, vont être de plus en plus subtils, jusqu'à la réalisation spirituelle, où là, l'être intérieur aurait pleinement développé toutes ses potentialités latentes, donc bénéficierait d'une ce qu'on appelait le corps de gloire, le corps de lumière. Il n'aurait plus besoin de se réincarner. Hein, c'est l'idée que l'on a dans le bouddhisme, avec le fait que on peut devenir une sorte de grand Bouddha. Hein, on quitte son corps de chair. Alors il y a différents corps, même dans le bouddhisme ésotérique, on peut rester à un niveau assez proche de la Terre. Il y a un niveau plus intermédiaire de Bodhisattva ou même un Dhyani Bouddha, une sorte de grand Bouddha primordial. Mais en tout cas, à chaque fois, dans ces trois types de Bouddha, on a quitté le cycle habituel de l'humanité, hein, le cycle perpétuel des renaissances.
Mais on ne relève plus du règne humain, on est passé dans un règne supérieur de la nature, on pourrait dire, le règne de ce qu'on appelle généralement des maîtres de sagesse.
Voilà, on les appelle les Mahatmas en Inde, les immortels, les Xianren en Chine, etc. Donc il y aurait l'idée que derrière cette notion de renaissance, il y a la notion d'immortalité, de perfection, en tout cas du point de vue humain. On pourrait atteindre un nouveau stade et on ne serait plus soumis à cette loi lié à la nature, hein, cette réincarnation des corps.
Ok, je crois que David, on pourrait faire une pause et puis ensuite revenir sur les différentes étapes de la mort, hein, puisque c'est notre sujet, les différentes, le processus de la mort au niveau concret. Vous écoutez Vive et Conscient et nous traitons aujourd'hui de la mort et de la renaissance avec David. Alors nous avons essayé de décrire un peu déjà les peurs de la mort et les différentes raisons de ces peurs, en dépit des éléments de preuve, en tout cas de la réalité d'une perdurance de la vie et de la conscience, en tout cas après la mort, et probablement aussi de la réincarnation.
On allait parler des étapes de la mort.
Voilà, on voudrait parler de ça maintenant.
Alors, je pense que le livre qui décrit le plus précisément ces étapes, à ma connaissance, c'est celui d'Alice Bailey, qui se nomme « La guérison ésotérique ». Alors, c'est un peu curieux peut-être pour certains de parler longuement de la mort dans la guérison, mais d'un point de vue ésotérique, la mort peut être vécue comme une guérison de l'âme. Hein. C'est-à-dire, l'âme peut parfois guérir, intérieurement, par exemple, mais être amené jusqu'à mourir et terminer son incarnation.
Mourir, les véhicules d'incarnation de l'âme meurent, mais l'âme elle-même, bien sûr, ne meurt pas hein, dans ce schéma explicatif.
Et donc, il y a la description des trois grandes étapes que l'on trouve dans les traditions. Alors, on pense au livre des morts tibétain, hein, le Bardo Todol, qui parle des étapes du du bardo notamment, qui sont les étapes dans le monde astral, hein, le monde émotionnel. Il y a aussi bien sûr le livre des morts égyptien, et je pense que dans toutes les traditions il y avait une science de la mort, parce que la mort explique la vie. Quand on meurt, Olivier, on passe dans les étages de conscience dans lesquels on vit durant son incarnation donnée, sauf qu'on les quitte là définitivement.
Durant le sommeil, tu veux dire, hein?
Non, quand on meurt, je veux dire. Quand on fait le sommeil, quand on est en sommeil, on y transite, mais on revient, alors que dans la mort, on va quitter définitivement ces étages-là. C'est la seule différence, ma foi.
Voilà. Apparemment, la mort, c'est aussi simple que de s'endormir. Et on vit les choses un peu comme dans le sommeil, sauf comme tu dis que là, cette fois-là, on va pas revenir. On va peut-être venir un petit peu après sur la technique. Mais c'est intéressant de se dire que la mort, c'est beaucoup plus facile que la naissance. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins douloureux de mourir que de naître. Ce qui peut être douloureux, il peut y avoir des douleurs accompagnant ce qui précède la mort elle-même.
C'est un trauma, mais, oui.
Voilà, mais le passage lui-même, c'est comme de s'endormir et de se réveiller à un état qu'on est peut-être tout surpris de retrouver comme étant notre état réel. C'est un peu comme si on se réveillait, en fait.
En quelque sorte, on dit parfois que l'incarnation est un rêve, et voilà, qu'on se réveille à la, en tout cas à une plus grande réalité. Alors Olivier, à quel moment, qu'est-ce qui définit, on pourrait dire, ésotériquement, énergétiquement la mort ?
Alors, il y a on appelle ça des fils, hein, qui relient l'entité qui s'incarne, donc nous on appelle âme, hein, dans le jargon là. Il y a des fils qui relient cette entité à ses corps de manifestation, à ses corps d'incarnation. Donc il y a le fil de conscience et il y a aussi le fil de vie. Alors tu vas nous préciser David, mais je crois que le fil de vie s'ancre, arrive au niveau du chakra du cœur, hein, alors que le niveau de conscience arrive dans la tête.
En fait, il faudrait considérer que c'est le même fil, mais qu'il a deux attaches. Bien sûr, la première attache qui peut s'enlever, c'est celle de la conscience au niveau du cerveau, et elle s'enlève à chaque fois qu'on s'endort, qu'on perd conscience, qu'on s'évanouit, etc. Mais l'attache au niveau cardiaque se maintient, ce qui permet à l'âme de continuer d'alimenter, de faire battre le cœur, les poumons. Et au moment de la mort, donc, on va comprendre que le fil va se détacher et au niveau de la conscience et au niveau du cœur.
Et quelquefois, pas exactement en même temps. C'est-à-dire qu'il est possible que le fil de conscience se détache plusieurs jours ou semaines ou même plus.
Ou même des mois si on est face à un coma. Hein. On a parfois une mort végétative, une mort même cérébrale. On peut avoir aussi des fois une mort végétative où c'est entretenu par la technologie, par des appareils. Et parfois, il est même possible que l'âme soit déjà partie, mais que voilà, que le corps soit maintenu dans une vie végétative parce qu'il y a suffisamment d'énergie dedans, ou la technologie aide suffisamment la vie du corps à se maintenir. Mais quand l'âme a décidé, a ordonné le décret de la mort, en tout cas, le processus de retrait se fait au niveau du cœur. Alors qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est intéressant déjà de voir que c'est l'âme qui décide du moment de la mort de la personne.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose d'intéressant. Ça pose le problème de l'euthanasie aussi, mais on ne va pas rentrer dedans, mais juste simplement voilà, soulever cette question.
Donc elle peut décider de ça si elle juge, par exemple, que, je ne sais pas si c'est quelqu'un de très âgé, très malade, la dégradation du corps rend... l'âme n'apprend plus grand-chose dans cette vie-là. Et donc, ça serait plus profitable pour elle de pouvoir se renaître dans un autre corps plus jeune.
Il faudrait pouvoir sonder le vouloir de l'âme. Est-ce qu'il y a encore aussi une expérience à vivre aussi cette forme de souffrance, d'alitation, cette expérience-là, je ne sais pas. Ça peut... C'est en tout cas un sujet très très subtil et ce n'est pas aussi simple que je suis malade, je ne peux plus rien faire, donc je dois mourir. Hein? Ça pose en tout cas des problèmes philosophiques et spirituels certains.
Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes savoir si on n'est pas en contact avec cette âme.
Tout à fait. Alors donc, Olivier, en admettant donc que l'âme donc décide le retrait, elle décroche le fil de vie ancré dans le cœur, que se passe-t-il à ce moment-là?
Donc on va voir la personne, un état de santé qui va se dégrader rapidement, par exemple, ou qui va avoir une série de crises cardiaques, ou avoir un système nerveux qui va se mettre à vraiment dysfonctionner. Hein, la force vitale, la force de vie de l'âme est retirée et le corps physique arrête de fonctionner. La personne à ce moment-là décède, et la conscience va, un peu au départ comme à l'endormissement, hein, la conscience va se retirer du corps physique. Lorsqu'on s'endort, on n'a plus l'impression d'être un corps physique, mais elle va se retrouver dans le corps énergétique, le corps, comment on appelle
le double subtil, en quelque sorte.
Hein. Oui, le corps éthérique, voilà. Et va se retirer ensuite de ce corps-là, un peu comme ça, par étapes inverses des étapes de l'incarnation, en fait.
Alors, il semblerait que la sortie puisse se faire par trois portes majeures. La majorité des gens sortent par le chakra, la zone énergétique du plexus solaire, hein, que les gens qui sont de nature plus émotionnelle. On peut sortir aussi par le cœur. Hein, et ceux qui sont plus de nature mentale, l'âme va se retirer par la tête.
Donc ça, tu parles de se retirer du corps énergétique, hein, du corps éthérique.
À l'intérieur du corps physique. Hein, quand l'âme se retire avec le corps éthérique, la sortie va se faire par une de ces portes. Et les derniers points d'énergie qui lâchent, ce sont les deux points du poumon, ceux qu'on utilise pour réanimer. Et donc, et bien sûr, la zone du cœur elle-même. C'est les derniers points d'attache.
Donc, et ça prend un certain temps. Hein.
Ça prend maximum 3 jours, sauf dans le cas de la crémation, quand on brûle le corps, donc il n'y a pas du tout de souffrance, hein, mais simplement le feu permet... Bon, il faut bien sûr s'assurer qu'il y a la mort clinique, hein, qu'elle soit attestée, mais le feu va en quelques heures permettre cette dissolution, cette élimination.
Du corps éthérique, hein.
Voilà, c'est-à-dire cette capacité complète du corps éthérique à s'extraire et donc à se dissoudre. Le feu va aider.
Et la conscience se retrouve à ce moment-là sur les plans de l'astral, donc.
Alors on rentre dans ce que les Tibétains appellent les plans du bardo, voilà, ces fameux plans astraux. Alors il y en a 7 majeurs et même encore à l'intérieur, 7 gammes de 7, donc c'est pour ça qu'il y a 49 bardos, hein, 49 états différents. Donc on peut retenir les 7 majeurs, selon notre niveau de conscience durant la vie, on va se rendre dans le niveau de conscience astrale, qu'on appelle ou alors émotionnel, affective, le niveau affectif, sentimental qui nous correspond.
Et ça se fait automatiquement par vibration, c'est-à-dire cette synchronie vibratoire entre ce que nous étions dans cette vie-ci, ou à la fin de cette vie-ci, et le plan émotionnel en question.
Mais en fait, il n'y a pas de différence entre la vie et la mort, sauf que là, on y est en fait, par exemple, durant la journée, on ne s'en rend pas compte, on est sur ce plan-là, et quand on meurt, en dessous, ça s'enlève, et donc on y reste, tout simplement. Hein,
Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là ?
Alors, on est censé vivre les états, les désirs, les sentiments, les émotions qu'on vivait de notre vivant. Plus on est attaché, plus on est imprégné de ça, plus on peut rester, être en quelque sorte emprisonné, au point même de ne pas savoir que l'on est mort. Hein, il y aurait des sortes d'anges ou de maîtres, de guides qui annonceraient, qui éveilleraient l'individu, lui ferait comprendre qu'il est mort. Parce que c'est assez curieux, mais c'est un peu comme lorsqu'on rêve. Hein. On ne sait pas qu'on rêve, on est dedans, on le vit pleinement. Donc ce serait une sorte de rêve astral dans ce monde-là. Et on ferait les choses qu'on a l'habitude de faire, de vivre. Alors, certaines âmes restent aussi très attachées parfois au plan physique et elles errent, on parle d'âmes errantes. Elles errent auprès de leurs proches, dans des cimetières parfois, ou dans des lieux où elles sont mortes violemment, ça peut arriver.
C'est lorsque la personne n'a pas eu conscience qu'elle mourait, quoi.
Voilà. Et donc, elles restent très proches du plan même éthérique, hein. Alors qu'après, donc, les âmes sont censées aller vers ce plan-là, le plan astral, et peuvent y rester plus ou moins longtemps. Mais il n'y a pas vraiment de notion de temps, Olivier.
Oui, le temps n'est qu'une réalité dans le cerveau. Donc, à partir du moment où on s'extrait, bon, on voit bien dans le sommeil, hein, on peut faire un rêve qui nous paraît être très long. En fait, il dure que quelques secondes en temps matériel. Et voilà, donc, a fortiori, dans le plan astral, le temps n'existe pas.
Alors la différence, c'est ceux qui vont transiter simplement par ce plan, parce qu'ils ont eu une vie suffisamment mentale, ils ont utilisé suffisamment leur nature mentale, et à ce moment-là, ils ont une suite à vivre.
Ils sont détachés de leurs émotions, et donc ils vont pas être captifs de ces plans vibratoires-là.
Ils vont y rester plus ou moins longtemps, mais ils vont pas s'arrêter là. Si les gens sont uniquement émotionnels et qu'ils ont vécu entièrement sur ce plan-là, ça va être leur sorte de paradis à eux. Ils vont rester sur ce plan-là et je dirais le peu de corps mental qu'ils avaient va être éliminé par l'âme très rapidement. Donc ils vont rester sur ce plan-là. Le corps va peu à peu s'effriter, hein, parce que c'est en fait des particules, hein, des molécules. On parlait de coques au 19e siècle. Hein, c'est des coques, et c'est souvent d'ailleurs avec ça que les médiums rentrent en contact, plus qu'avec l'âme du sujet, avec parfois les résidus des corps qu'il reste. Donc ça va se désagréger, et donc l'âme va recréer, repousser, redéclencher une nouvelle incarnation le long de ces fameux fils, du fil et des atomes permanents. Ou alors une partie de ceux qui sont évolués vont se rendre dans le plan mental. Et là, on passe dans la troisième phase. On appelle ça techniquement la phase d'intégration, l'intégration mentale. Avant, on était dans la phase d'élimination. Et dans le corps éthérique, on était dans une phase de restitution. C'est l'idée qu'on restitue les particules dans l'océan d'énergie pour le corps éthérique. Donc on élimine nos désirs, ça prend plus ou moins de temps, et après on intègre. Alors dans le plan mental, si on a aussi eu une vie mentale assez active, eh bien la conscience va en quelque sorte devoir aussi épuiser ces idées-là, ces pensées, elle va les observer, enfin, elle va vivre dans ce monde-là des pensées. Puis au fur et à mesure, l'individu va pouvoir, s'il a eu suffisamment de contact avec son âme, d'une manière ou d'une autre durant sa vie, il va entrer dans ce fameux paradis. Donc on pourrait dire que, en langage chrétien, que l'enfer, ça pourrait être des sous-plans de conscience de l'émotionnel, hein, pour ceux qui auraient eu une vie très très difficile, qui auraient vécu justement l'enfer sur terre, ils vont retrouver ces états un peu ténébreux, difficiles, dans l'état post-mortem. Il y a des états de purgatoire, sur les couches supérieures de l'émotionnel, où il y a des très beaux sentiments, d'ailleurs mystiques, amoureux. Pareil au niveau du mental, on peut avoir des états comme ça de grande richesse mentale, intellectuelle. On vit vraiment, il faut comprendre que c'est des plans de conscience. Hein. On n'a plus de corps, si ce n'est le corps en question, dans lequel la conscience est immergée. Et puis après, on passe dans le paradis. Le fameux paradis céleste, c'est le plan de l'âme proprement dit.
Vraiment absence de frontières entre soi et le reste, sentiment d'union avec le tout, absence de temps.
État béatifique.
Donc pas de pensée, pas de...
Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de corps subtil. On est revenu à la maison en quelque sorte. Hein.
C'est vraiment un état d'être et un état d'être empreint de félicité, agréable.
Qui peut durer des éons, parce qu'il n'y a, bon, il y a plus de temps, mais ça peut durer très très longtemps avant que l'âme soit... invité à revenir se réincarner. Alors ce qu'on n'a pas dit, Olivier, c'est que les réincarnations se font avant tout en groupe.
Oui. Donc il peut arriver que la nécessité du plan divin, pour dire ça comme ça, entre guillemets, le plan divin fasse que un certain groupe d'âmes, un ensemble d'âmes, soit invité à se réincarner à un moment donné, à un endroit donné, pour faire évoluer justement ce plan d'évolution pour la Terre, pour l'humanité en général.
Mais ça se passerait aussi au sein de nos familles. On appartiendrait tous à... Alors il y a plusieurs groupes karmiques, comme on dit, hein, c'est lié au karma, la loi de cause et d'effet. Il y aurait plusieurs groupes comme ça, on aurait déjà un karma familial, on connaîtrait déjà les âmes qui
c'est-à-dire
font partie
oui,
de notre univers
familial. C'est-à-dire
qu'après,
oui, c'est ça, l'âme va choisir la famille dans laquelle s'incarner, la famille qui va lui permettre de vivre l'expérience ou l'apprentissage qu'elle a décidé de faire au cours de cette incarnation-là. L'âme ne peut pas d'un coup tout apprendre, d'un coup vivre tous les apprentissages, donc elle se fixe des objectifs dans une vie donnée, des desseins, des buts, et elle va choisir une famille qui lui permette, qui lui laisse une chance en tout cas d'atteindre ses objectifs. Vivez conscient, nous nous retrouvons à parler cette fois-ci de la mort et de la renaissance. David, peut-être revenir sur les trois étapes de la mort que nous avons essayé de décrire, comment ça se passe concrètement?
Alors donc, l'âme est accrochée en quelque sorte à son véhicule, à son corps par le cœur et par la conscience. Quand elle retire la conscience, bon là c'est ce qui se passe quand on dort, etc. La mort également, bien sûr, il va y avoir un retrait de cette conscience. Et le retrait vital, quand il s'opère, alors ça peut prendre plus ou moins de temps. S'il y a suffisamment d'énergie, le corps va vivre encore. Mais au moment vraiment de la mort clinique, le corps éthérique va se retirer, sortir en quelque sorte. Et la conscience va s'échapper par une des portes. Hein, le plexus, on a dit le cœur ou la tête. Et durant 3 jours, voire moins, si on brûle le corps, l'élimination du corps éthérique va se faire. Puis on passe par la phase souvent la plus longue, c'est la phase d'élimination du corps astral, du corps de désir, qui peut être plus ou moins long, où on peut se laisser plus ou moins enfermer, et même y rester pour certaines âmes non évoluées, hein, qui n'auraient connu sur Terre que cette dimension-là. Ou alors, pour les plus évoluées, il va y avoir aussi une sorte d'élimination, de désintégration du corps mental, qui souvent se fait avec la participation de l'âme, ou si la conscience est suffisamment éveillée, avec la participation du sujet, avec un son, un mantra qui va détruire le corps mental. Et à ce moment-là, l'individu, s'il y a eu cet éveil, cette conscience de l'âme au fur et à mesure de ses vies, va vivre vraiment le paradis. Hein. C'est ça en fait les élus, c'est tout simplement ceux qui ont eu conscience, qui ont développé ce contact à l'âme.
Donc là, globalement, une expérience beaucoup moins traumatisante qu'on en a peur généralement, beaucoup moins traumatisant par exemple qu'une naissance. Et donc on va vers quelque chose de bien de grand, une impression aussi d'expansion de conscience, en ce sens que les limitations du corps physique, les limitations émotionnelles, les limitations mentales n'existent plus. Et on peut se trouver, l'âme est toujours le niveau de conscience qu'elle a, mais on peut se trouver par rapport à notre connaissance, à notre conscience qu'on avait en incarnation, on peut se trouver tout d'un coup très très très, avoir une ampleur énorme au niveau même de la connaissance, de la dimension sensible, etc. Donc c'est là où on disait, on peut par exemple entendre les pensées des gens qui sont dans l'hôpital, par exemple, comme racontent ceux qui vivent des expériences au seuil de la mort.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne va pas dans un nouveau lieu. On habitait déjà ces différents niveaux, mais là, vu que au fur et à mesure on perd ce qui est en dessous, on en est beaucoup plus conscient, comme tu dis, et plus on s'élève, plus le champ de conscience est large. Donc, dans ce paradis, donc dans ce monde de l'âme, on a une sorte d'expérience béatifique où on revit d'une façon exponentielle, autant dans le temps que dans l'intensité, semble-t-il, les expériences d'âme. Hein. C'est comme si l'âme était tournée vers son origine, vers sa divinité.
On rentre à la maison, on se réveille.
Voilà. Le retour du fils prodigue.
Alors après, on va se réincarner. Alors, apparemment, ces incarnations sont de plusieurs... Il y a plusieurs lois qui gouvernent ces réincarnations.
Oui, il y a plusieurs lois qui correspondent au type d'individu, au niveau d'évolution dans lequel se trouve l'individu. Alors ce niveau d'évolution, tu l'as dit, il dépend simplement des moments de l'histoire de l'âme du sujet. Hein. On n'a pas tous commencé au même moment les cycles d'évolution. Il y a parfois des très grandes différences de temps, donc d'expérience. C'est la différence essentielle. Donc les jeunes âmes, entre guillemets, vont être poussés par la loi d'évolution, par le principe, le besoin d'évoluer. Donc ce sont celles en général qui restent sur le niveau astral, qui vont pas qui traversent pas le plan mental, qui est pratiquement inexistant chez eux, et qui vont pas aller donc sommeiller dans ce fameux paradis de l'âme. Hein. Donc une fois que sur ce plan-là, une fois qu'elles sortent de leur sommeil, et que le corps astral est complètement donc dissipé, et qu'il est temps pour elles de revenir, ces âmes reviennent comme ça très rapidement. Et ce sont par exemple les les grands groupes d'âmes que l'on va trouver dans les pays du tiers-monde, qui n'ont pas vraiment de contrôle sur leur incarnation. Et on a souvent tendance à dire que si elles vivent ces horreurs, on pense à la misère, à toutes ces choses, c'est que c'est leur karma, mais en fait pas du tout. Elles sont forcées magnétiquement. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a une loi d'attraction qui attire une âme. Et donc ces âmes-là sont forcées de revenir dans des conditions qui sont celles que nous leur offrons. Hein. Je parle au niveau de la communauté internationale. Hein. Donc voilà, elles sont forcées de se réincarner, ces âmes-là. Elles n'ont pas de choix. C'est presque instinctif, automatique. Elles ont besoin de beaucoup d'expérience. Et le deuxième groupe, qui est la classe moyenne au niveau de l'humanité, eux se réincarnent aussi en groupe, parce qu'on se réincarne toujours en groupe, mais en fonction des cycles du moment. C'est-à-dire il y a des énergies qui leur correspondent et elles vont entrer en incarnation au moment qui leur correspond selon le cycle zodiacal. C'est relié à la science des rayons, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais il y a sept énergies qui correspondent aux sept types d'âmes et les âmes qui sont sur ce rayon-là vont être à certains moments poussées en incarnation et à d'autres moments restées en sommeil dans le paradis céleste. Et puis il y a un troisième groupe qui sont un groupe à part, il n'est pas important ce groupe, ce sont ceux qui sont déjà sur le sentier, qui sont les disciples, les initiés, ceux qui sont proches de leur réalisation spirituelle, qui eux ont un regard, une sorte de plus grande maîtrise sur leur incarnation et qui vont choisir avec beaucoup d'attention leur famille, le moment où elles peuvent revenir et qui ne vont pas dépendre de ces cycles. Et souvent, ils reviennent assez vite pour épuiser, comme on dit, leur karma, terminer leur évolution pour faire partie d'un groupe dont on a souvent parlé, Olivier, dans nos émissions, c'est le groupe des maîtres de sagesse.
Mmh. Terminer ce que l'école Terre peut enseigner à l'être humain qui s'incarne et passer à autre chose.
Voilà, se mettre au service. C'est pour ça qu'à la fin, l'évolution s'accélère. Donc voilà un petit peu pour les trois grands groupes d'âmes. Donc c'est vrai que les conditions sont très différentes selon que vous êtes vraiment une jeune âme ou selon que vous appartenez à, on va dire, la classe moyenne, hein, pour parler simplement, ou selon que vous êtes un disciple, quelqu'un qui est entré en pleine conscience sur le sentier d'évolution.
Alors, si on voulait maintenant revenir à la mort, il y a aussi, on a dit que c'était plus simple et plus beau que la peur qu'on en a généralement, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut s'y préparer? Comment?
Je pense qu'on peut étudier. Donc là, je recommanderais le livre « La guérison ésotérique » hein, d'Alice Bellet aux éditions Lucy's Trust. C'est un très très bon ouvrage. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur les causes de la maladie, sur la constitution de l'homme. Donc on peut étudier.
Pas très facile tout de même d'abord. Hein.
Pas très facile d'abord, mais le livre, par exemple, du livre des morts tibétain n'est pas forcément plus simple parce que c'est beaucoup imagé aussi. Alors que là, c'est pas imagé, c'est beaucoup plus scientifique.
Il y a un livre de Benjamin Krem, cet auteur ésotériste anglais dont on vous parle souvent, qui s'appelle La mission de Maitreya. La mission de Maitreya, le tome 1, dans lequel il y a une partie sur la mort et qui est très abordable.
Avec des questions-réponses d'ailleurs.
Voilà, une sorte de synthèse de ce que peut avoir dit Alice Bellet par exemple.
Alors se préparer, l'idéal c'est d'apprendre à élever son niveau de conscience, non seulement durant sa vie, parce que plus on élève son niveau de conscience, plus on, dans ses corps subtils, en fait, plus on fait vibrer des couches plus hautes. Et c'est sur ces couches qu'on va aller quand on va mourir, hein. Moi, j'insiste là-dessus, on ne va pas dans un autre monde. Quand on meurt, on passe en revue, en quelque sorte, ces différents véhicules, ces différents niveaux. Et là où on avait le niveau de conscience dans tel corps, c'est une moyenne, c'est là qu'on se rend, tout simplement.
Donc ça veut dire, David, si j'ai ma conscience, focalisée la plupart du temps, c'est-à-dire si mon attention la plupart du temps dans ma vie porte sur ce qu'on appelle le bas astral, par exemple là où se trouvent les désirs les plus bas, hein, je crois.
Si j'ai fait des choses terribles, voilà.
Et automatiquement, au moment par synchronie vibratoire, en quelque sorte, automatiquement au moment de la mort, c'est dans ce plan-là que je vais me retrouver. Et effectivement, peut-être vivre l'enfer dans ce cas-là.
Voilà, tout à fait.
Et... inversement, si dans ma vie, je suis la plupart du temps très focalisé dans la tête et dans l'intellect, dans le mental, je vais me retrouver au moment de la mort sur ces plans du mental.
Voilà, et là, ça pourrait correspondre à ce fameux purgatoire. C'est un état intermédiaire entre l'âme ou alors le bas astral, comme tu dis. Hein. On pourrait dire l'émotionnel supérieur, hein, le monde des sentiments et le monde des pensées, ça serait l'équivalent du purgatoire. Le paradis, ça représente tout simplement, c'est pas une récompense, c'est simplement un état que l'on a vécu dans des méditations, par exemple, sur Terre, là. Donc, on recommanderait aux gens de méditer, d'apprendre à créer le contact. Au moins, il y a un exercice tibétain où on apprend à pousser sa conscience, même au niveau du sommet de la tête. Hein. À partir du front, on peut visualiser qu'on pousse. Donc, c'est comme une trappe qu'on apprend à ouvrir. Et au moment de la mort, il est recommandé de... même dans les pratiques tibétaines, d'exercer cette poussée de la conscience pour traverser justement ce plan astral qui souvent retient l'âme. Hein, c'est là où on a nos désirs, nos attachements, donc, alors qu'on n'est pas retenu pareillement sur le plan mental. Donc l'enjeu, ça va être de traverser ce plan des désirs, des illusions. Hein, dans les traditions, c'est les moments où on traverse des chambres, des salles particulières ou des forêts, des grottes, et voilà, il va falloir passer à travers ça, passer à travers ce sentier épineux.
Donc d'où l'importance pour se préparer à ça, de son vivant, de travailler à éliminer ses désirs, à se détacher de ses désirs qu'on peut avoir.
Tout à fait, et on peut même dire que toutes les qualités morales que l'on va développer prépareront une belle mort. Hein, toutes les qualités intérieures que l'on va développer, bah on les développe dans ces corps subtils et c'est dans ces corps que l'on va dans les étapes de la mort. Donc on voit que ici la notion de morale, l'importance des pensées, de l'hygiène psychique, hein, psychologique, là on voit que ça prend toute sa dimension dans ces fameuses étapes de la mort. Donc on comprend aussi pourquoi l'on dit que bien vivre, c'est aussi bien mourir. Et dans le bouddhisme, on explique aussi que donc, selon les conditions de la mort, eh ben, on va renaître en fonction de l'acquis de ces fameux atomes permanents dont tu nous parlais au début, Olivier. Il y a cette notion de balance aussi. Quand on quitte l'incarnation, on a une forme de jugement intérieur où l'individu peut faire le bilan de sa vie. Hein. Enfin, c'est l'âme en fait qui le fait. Elle regarde dans les atomes permanents. Et elle voit, en fonction de son objectif, de son plan d'incarnation, ce qui a été réalisé, ce qui ne l'a pas été. Hein. Il y a une forme de bilan, on pense à la pesée des âmes hein, en Égypte, hein, où la plume de Maa doit devenir aussi légère que le cœur, sinon l'individu retourne, il est mangé par le crocodile, Sobek, il retourne en incarnation, c'est ça l'idée, hein.
Nous avons vu qu'après cette mort venait une renaissance, et puis venait un certain nombre de renaissances en fonction des nécessités de cette âme qui doit apprendre et apprendre. Et puis à un moment, elle va avoir terminé d'apprendre et atteindre cet état de maître de sagesse, que nous avons appelé comme ça en tout cas, et qui est un mot. Alors, est-ce que c'est ça l'immortalité? Est-ce qu'on devient immortel à ce moment-là?
Eh bien. On devient immortel au moment où on n'a plus besoin de se réincarner. Pourquoi ? Parce que nos véhicules sont de pure lumière. On n'a plus des vêtements mortels. On a des vêtements de lumière. Alors, selon les traditions ésotériques, il y a, si on prend par exemple le bouddhisme, il y a les bouddhas qui vont garder un corps de lumière et continuer de servir et même pouvoir revenir sur Terre, simplement pour aider. Et puis il y a ceux qui entrent dans un nirvana parfait, qui vont rester sur les plans sans forme. Donc on peut imaginer...
Leur conscience reste, mais ils ne se réincarnent pas.
Voilà, ils ne se réincarnent pas, même à travers un corps qui se serait créé eux-mêmes. Ce ne serait pas vraiment le terme réincarné, là. Ils ont abandonné toute référence à l'incarnation. Ou alors certains se créent eux-mêmes un corps de lumière qu'on appelle parfois Nirmanakaya ou Maya Virupa. Un corps comme ça fait de lumière, ils vont aider ainsi l'humanité.
Mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que l'évolution ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois, devenu maître, on va devenir super maître, etc. Enfin, je pense que c'est des choses qui nous échappent à ce niveau-là. Mais c'est pas... L'évolution se poursuit, l'évolution de la conscience se poursuit.
Elle se poursuivrait, oui, dans des systèmes plus grands, hein, dans le système solaire, dans des constellations, voire même dans la galaxie. Hein. On pourrait, en tout cas, c'est ce que dit l'enseignement ésotérique, l'homme n'est pas la fin en soi. Hein. C'est une étape importante, certes, mais ce n'est pas la fin. Donc en fait, c'est l'idée aussi que ça casse un peu l'idée du paradis, Olivier, hein, où on se disait... dans les traditions monothéistes, on a l'impression qu'on va au paradis, puis voilà, c'est fini, on est à côté de Dieu, et puis on y reste éternellement. On voit que c'est une idée très très primaire, en fait. Hein.
Mmh.
C'est, même ce paradis, en fait, on n'y reste qu'à un moment, parce qu'on se réincarne, et quand on est maître, c'est plus ce paradis-là, ce sommeil, hein, c'est une pleine conscience. Soit on va plus haut, soit on continue le chemin, selon le sentier choisi, hein. Soit on reste sur Terre et on aide, et c'est de là que vient la tradition donc des immortels, hein, des Mahatmas, des maîtres de sagesse, qui est peu connue en Occident, mais en Orient, c'est un sujet très très sérieux. On pense en Chine qui a encore des grands immortels qui ont plusieurs centaines, voire milliers d'années. Oui, c'est quelque chose de très connu en Orient.
Eh bien, merci David. J'espère que nous avons donné une image, après tout, assez optimiste de la mort, à la fois du passage en lui-même, de ce qui se passe après, et puis du cycle dans lequel ça se passe, des renaissances. En tout cas, c'était notre intention. Bonsoir David.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier, et à bientôt alors.
Merci à tous.